Onde Femmes, Radio Zone 93.8.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und élégant sein.
La philosophie des dames doit être courte, claire et élégante. Remue ménage.
Onde Femmes. Onde Femmes, c'est sur Radio Zone 93.8 et c'est tous les mercredis. Vous les avez peut-être vus se rassembler tous les mercredis soirs, le premier mercredi soir de chaque mois. Ce sont les femmes en noir de Genève. Mais les femmes en noir de Genève, c'était d'abord les femmes en noir à Belgrade, en ex-Yougoslavie. Semble-t-il qu'elles avaient d'abord d'autres femmes dont elles avaient imité la manifestation, manifesté son deuil face à une occupation, face à une guerre, face au nationalisme. Et c'est de tout cela que nous allons parler aujourd'hui en compagnie de Rina Nissim et de Claire Sanière. Bonsoir à toutes les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et nous allons parler plus en particulier, bien sûr, de ce qui s'est passé Femmes en Noir à Belgrade, puisque au mois d'août dernier, Rina Nissim est allée à Belgrade à la rencontre de plusieurs groupes de femmes en noir qui se réunissent dans le monde entier pour soutenir les femmes en noir ex-yougoslaves qui manifestent contre la guerre, contre l'épuration ethnique, contre l'absurdité de cette guerre qui dure depuis maintenant 4 ans déjà. Alors, tout de suite dans Remue Ménage, Onde Femmes Radio Zone, les femmes en noir en compagnie de Rina Nissim et Claire Sanière.
I'm having a few and I'm wishing that you are here. Well, I'm making the rounds, making the rounds, setting them up for total strangers. Let me tell you, I'm just being a fool. Trying to get home with nothing. pilgrims and just a memory.
Aretha Franklin pour nous accompagner dans cet après-midi dans Remue Ménage, Ondes Femmes, Radio Zone 93.8. Nous parlons des femmes en noir. Les femmes en noir, Rina, ça existait d'abord, tout d'abord, en Israël, c'est ça?
Oui, je crois que les femmes en noir israéliennes reprenaient en fait une idée des femmes d'Argentine, de las locas de la Plaza de Mayo, des femmes qui protestaient contre l'enlèvement, la disparition de leurs enfants. Elles avaient repris cette idée de protestation populaire dans la rue. Et elles, donc, elles étaient habillées en noir, elles étaient silencieuses et elles protestaient contre l'occupation des territoires par l'armée israélienne. Et ça a pris beaucoup, beaucoup d'années de présence sur la rue et de se faire cracher dessus par les autres, jusqu'à ce que finalement il y ait quand même un certain changement de mentalité qui a pu entraîner une petite ouverture maintenant.
Et alors, par rapport à l'ex-Yougoslavie, comment le principe utilisé par les femmes en noir en Israël a-t-il fait école et a-t-il été utilisé par les femmes en ex-Yougoslavie, en particulier d'abord à Belgrade, je crois, qui ont voulu elles aussi manifester à leur façon contre la guerre qui s'était déclarée dans leur pays?
En fait, les premières qui ont réagi contre la guerre en ex-Yougoslavie, c'était les Italiennes, c'était les plus mobilisées. Elles avaient des contacts très fréquents avec les femmes de l'ex-Yougoslavie. Et c'est lors d'une visite des Italiennes que les femmes à Belgrade ont commencé, et puis ensuite dans d'autres villes, bien entendu. Et elles faisaient partie du mouvement pour la paix ou du mouvement qui s'opposait à la guerre, mais au bout de quelques mois, elles ont ressenti le besoin de s'organiser en tant que femmes dans ce mouvement. Et donc, elles sont présentes dans la rue maintenant depuis 4 ans.
Est-ce qu'elles ont, comme les Israéliennes, essuyé les crachats, les colibets, etc.? Ce qu'elles défendaient sur la place à Belgrade était aussi problématique que ce que défendaient les Israéliennes?
C'est très problématique. Bon, elles essayent d'être tout à fait unitaires. Donc, il y a parmi elles des femmes de toutes les origines. Et elles protestent autant contre la destruction d'une ville serbe que d'une ville bosniaque. Mais malgré tout, il est évident qu'elles reçoivent une certaine dose d'hostilité du public, mais aussi une certaine dose de soutien. Parfois, il y a des gens qui passent et qui disent « bravo, vous avez raison, c'est bien ce que vous faites ». Mais il y en a aussi, bien sûr, beaucoup qui les insultent.
Parce que, bon, là, je crois que c'est important de clarifier. Donc, ces femmes sont à l'origine des féministes, pacifistes, et qui, donc, dès le début de la guerre, très clairement se sont prononcées contre le nationalisme. Elles n'allaient pas prendre parti pour un côté ou pour un autre. Elles étaient contre cette guerre qui opposait des gens d'un même pays et qui s'entre-déchiraient. Et c'est cette prise de position qui les a tout à fait distinguées.
C'est-à-dire qu'il y a eu un mouvement d'opposition assez fort la première année, qui était un mouvement mixte, il y a eu des grandes manifestations de rue, mais c'est un mouvement qui s'est assez rapidement essoufflé, faute d'espoir d'une part, et puis par le fait qu'il est difficile de rester homme sur place, faute de se faire mobiliser. Donc petit à petit, le mouvement est devenu de plus en plus féminin. Et aujourd'hui, il ne reste pratiquement que les hommes âgés et les femmes dans le mouvement de protestation en ex-Yougoslavie. Donc les hommes âgés, c'est ce qu'on appelle le cercle de Belgrade, c'est des intellectuels qui se distancient des intellectuels, par exemple des historiens qui ont soutenu et construit une mythologie nationaliste. Et puis, les femmes. C'est les deux seuls groupes qui continuent aujourd'hui à s'opposer clairement au nationalisme, qu'ils soient serbes ou croates.
Mais est-ce que c'est parce qu'elles se retrouvaient, comme tu le dis, les femmes seules, qu'elles ont pris cette position-là, ou est-ce que ça recoupait d'autres prises de position qu'elles avaient par ailleurs, et donc c'est pas si étonnant que ça qu'elles ont manifesté de la sorte sur le contenu que tu viens de dire?
Elles étaient déjà organisées avant la guerre, par exemple, contre les violences contre les femmes, elles étaient déjà organisées, elles avaient un centre, SOS Téléphone existait déjà avant la guerre, donc c'était déjà une structure qui était prête à réagir. Donc c'est évident qu'il faut bien comprendre que sous Tito, il y avait très peu d'associations, il y avait très peu de vie associative et très peu de mouvements, des mouvements d'opinion ou des groupes de pression, ça n'existait presque pas. Mais elles existaient déjà depuis une bonne dizaine d'années. Donc je pense que c'est évident qu'un mouvement qui existait déjà est plus capable de s'organiser et de réagir par rapport à une situation que le reste de la population était dans une espèce de, et est toujours aujourd'hui dans une espèce de passivité qu'on a du mal à comprendre chez nous, où la vie associative est assez active et où toutes sortes de gens participent un peu à la vie politique ou à la vie civile d'une manière ou d'une autre.
Alors tout d'abord, effectivement, avant qu'elles qu'elle pense à réunir d'autres femmes pour venir les rejoindre. Cette rencontre où tu es allée au mois d'août, elles ont d'abord construit, elles, comme tu viens de parler entre autres de SOS Téléphone, tout un réseau à l'intérieur de l'ex-Yougoslavie. Donc des femmes en noir, tu nous l'as dit, mais si tu peux nous l'expliquer un peu mieux, ça s'est développé un petit peu partout dans l'ex-Yougoslavie.
Ça s'est développé d'abord en ex-Yougoslavie, donc à Belgrade et dans toutes sortes d'autres villes, bien sûr Zagreb, bien sûr... mais des plus petites villes aussi, Niš, en Macédoine, dans toutes sortes d'endroits. Et puis très vite quand même, toujours avec le soutien international. Ça veut dire des groupes comme ça qui prennent une position publique sont tout de suite victimes de la répression. Et leur seule chance de survivre par rapport à cette répression, c'est quand même d'avoir un soutien de l'extérieur. Donc ce soutien de l'extérieur, c'est la vie pour elles. C'est la vie parce que c'est le soutien financier, c'est la vie parce que c'est la stimulation pour tenir le coup, et puis c'est la vie pour tenir hors de tôle ou pas se faire assassiner, ce qui est quand même assez important. Donc elles étaient déjà en réseau avant, elles avaient déjà une communication avec d'autres groupes, entre elles et avec d'autres groupes à l'extérieur, et je crois que c'est ça qui soude tout ce mouvement. Donc se retrouver à cette rencontre à Tresnedjevac, 160 femmes de toutes les régions de l'ex-Yougoslavie, Kosovo inclus,
c'est l'aboutissement de l'activité de ce réseau depuis ces 4 ans.
Voilà, voilà. C'est une rencontre tous les ans pour se tenir les coudes, se soutenir, se raconter qu'est-ce qu'on a fait pendant l'année, comment on se débrouille, quels sont les projets, quelles sont les stratégies, surtout s'encourager pour tenir le coup.
Alors, on va revenir à la rencontre, mais tout d'abord, Rina, alors, les groupes ont aussi commencé à se former à l'extérieur de l'ex-Yougoslavie, tu viens de le dire, entre autres... ici à Genève, dans bien d'autres villes de Suisse aussi, à un moment donné, la solidarité s'est constituée, des groupes de femmes en noir ont existé avec des projets plus ou moins différents les uns des autres selon les lieux. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu soit de ce qui s'est passé en Suisse, soit de ce qui se passe ailleurs en Europe et dans le monde, parce que je crois que ça va au-delà des frontières de l'Europe.
Alors, je crois qu'il y a beaucoup de groupes qui ont réagi comme nous, qui au début de la guerre n'ont peut-être pas tout de suite compris l'importance de ce qui se passait, et qui ont réagi peut-être au moment où l'information est arrivée sur les viols massifs.
Donc c'était... Donc quasiment 2 ans après le début de la guerre.
C'était l'hiver 92, si je ne me trompe pas. Mmh. La nouvelle a commencé à arriver par tous les médias qu'il y avait ces viols massifs dans ces efforts de purification dite ethnique. Et là, la moutarde nous est montée au nez, comme beaucoup d'autres groupes, en fait, ont réagi à ce moment-là. Mais on avait quand même déjà un petit noyau de groupe qui existait avant, qui s'appelait Féministes contre la guerre, et qui avait manifesté dans la rue également contre la guerre du Golfe. À l'époque. Mmh. Donc c'est tout de suite ces personnes qui se connaissaient déjà d'avant, qui se sont retrouvées, qui se sont dit non mais c'est pas possible, on peut pas rester comme ça sans rien faire. Et c'est comme ça que Femmes en Noir Genève a démarré. Et en effet, dans d'autres villes, il y a eu des phénomènes assez similaires.
D'autres villes de Suisse, donc.
D'autres villes de Suisse et d'autres villes du monde. Je veux dire, les Allemandes aussi, les Italiennes, les Américaines, dans plusieurs endroits, des groupes ont démarré un petit peu au même moment.
En Suisse, où y a-t-il encore
alors,
des groupes?
Alors, Lausanne, Femme de la Palu. Il y a Neuchâtel aussi, qui a eu un groupe qui maintenant est passé plutôt dans les activités de soutien aux activités culturelles de Sarajevo, mais qui est néanmoins un groupe qui est vivant et qui existe également depuis 2 bonnes années. Et bon, bien sûr, du côté suisse-allemand, il y a plusieurs groupes. Il y en a certains qui sont plutôt du côté humanitaire, récolte de fonds, récolte de matériel pour un contact précis, et d'autres qui sont plus « politiques », entre guillemets. Et on a une coordination au niveau national où on se voit régulièrement pour se raconter les progrès et les difficultés de ces diverses activités.
Parce que justement, quand tu dis la distinction politique-humanitaire, c'est que clairement, il y a ces groupes de femmes en noir ont vu la nécessité non seulement de manifester publiquement leur opposition à la guerre et soutien aux groupes de femmes en noir en ex-Yougoslavie, mais y compris d'être actives. Donc il y a eu des camions, la nourriture, etc., qui ont été organisés en direction de l'ex-Yougoslavie. Et quand tu dis les plus politiques, ça veut dire quoi? Quelle distinction tu fais?
C'est-à-dire que, bon, on a toujours envie de faire quelque chose de concret, c'est normal. Donc, chaque groupe se cherche quelque chose de pratique, pas seulement faire des protestations, n'est-ce pas? Mais en même temps, on n'a pas envie de se faire enfermer dans ce type d'action. Il existe des grandes associations caritatives qui font un travail. On ne veut pas non plus se substituer à eux avec notre petite échelle et nos petits fonds. Donc, c'est sûr que chaque groupe essaye de donner un sens à son travail et chaque groupe a sa dynamique locale et ses contacts locaux, par exemple avec les réfugiés bosniaques ou avec d'autres associations une Suisse contre-armée. Vous voyez, il y a différentes associations possibles qui peuvent se faire entre les groupes présents dans une cité. Et dans chaque ville, c'est un petit peu différent, ces combinaisons de gens qui se sentent mobilisés par cette problématique. Et donc, dans chaque ville, les groupes ont des noms différents.
Alors, on y reviendra aussi tout à l'heure, mais quel a été alors le projet des Femmes en Noir de Genève, Claire? Le groupe de Genève a choisi clairement une optique en dehors du fait qu'on pouvait se réunir chaque semaine pour manifester sa colère contre la guerre et sa prise de position contre la guerre, donc le premier mercredi de chaque mois.
Oui, effectivement, les Femmes en Noir de Genève ont voulu participer à quelque chose de plus concret et... Finalement, ce qu'elles ont choisi, c'est le projet Medica, qui consiste en des centres thérapeutiques pour femmes violées, qui ont été organisés donc par des femmes, pour les femmes violées là-bas.
Et donc l'action du groupe de Genève consistait à soutenir ce...
C'est essentiellement un soutien financier, donc.
Mmh. Alors, on va revenir très en détail sur ce projet parce que, effectivement, depuis combien de temps? Je crois que ça fait déjà une année maintenant qu'on soutient ce projet depuis Genève.
Non, ça fait plus longtemps. Ce projet existe depuis début 93.
Mais nous, on le soutient depuis une année et demie. Ouais.
Une année et demie, voilà. Mm-hmm.
Donc, il y a eu un premier appel, des premiers soutiens, je suppose. Et puis, aujourd'hui, on a déjà, en quelque sorte, un bilan de fonctionnement, un bilan de pratique que tu pourras nous faire partager.
Tout à fait.
D'accord. Alors, on va revenir en détail, bien évidemment, sur ce que font les femmes en noir en ex-Yougoslavie. Quel fut l'échange qui a été possible à Belgrade, parce qu'on a envie de savoir ce qui s'est passé. Et puis, on reviendra aussi très en détail sur ce qui se passe avec le projet Medica, donc que soutiennent les femmes en noir de Genève.
Thank you.
Musique des Balkans traditionnels dans Remue Ménage, Ondes Femmes Radio Zone, pour évoquer aujourd'hui le travail des femmes en noir, ces femmes qui, chaque mois, défilent, manifestent silencieusement sur les places de leur ville pour exprimer leur opposition à la guerre, à l'absurdité de la guerre, au nationalisme, à l'épuration ethnique, et qui espèrent un retour de la paix en ex-Yougoslavie, mais aussi dans plein d'autres pays, plein d'autres villes du monde qui amènent leur soutien aux femmes en noir en ex-Yougoslavie. Alors, avec Claire Sanier et Irina Nissim, nous évoquons aujourd'hui, bien sûr, ce que font les femmes en noir en ex-Yougoslavie, mais à Genève aussi, bien évidemment, puisque c'est de là que nous partons. Et puis, Irina est allée au mois d'août, comme elle était déjà allée il y a 2 ans, et nous en avions déjà parlé sur cette antenne, peut-être vous en souvenez-vous, elle est allée à la rencontre qui, chaque mois d'août, réunit des femmes de tous les groupes femmes en noir du monde et qui viennent échanger ce qu'elles ont fait au cours de l'année. Alors, Irina, avant de parler de cette rencontre 1995, je crois qu'il est important de repréciser d'abord ce que justement les femmes en noir en ex-Yougoslavie font elles-mêmes, peut-être en particulier celles de Belgrade, parce qu'elles ont vraiment une activité très importante en dehors de ces manifestations publiques. Il y a le moment public, mais il y a tout ce qu'elles font en dessous comme soutien à toutes les femmes qui s'adressent à elles, parce qu'il serait bon de comprendre finalement qu'est-ce qu'il y a de significativement femmes dans leur action, en dehors du fait qu'elles se retrouvent plus que comme femmes, comme tu le disais tout à l'heure.
Alors tout d'abord, j'aimerais préciser, quand on dit purification ethnique, nous on a un petit peu l'habitude dans nos tracts, ça fait un peu lourd, mais de dire purification dite ethnique, parce qu'en fait, les différents partenaires de l'ex-Yougoslavie font partie de la même ethnie, ils parlent la même langue, et il n'y a vraiment pas grand-chose qui les différencie, ni sur le plan culturel, ni sur d'autres plans. Donc, le nationalisme, c'est justement faire croire qu'on fait partie d'une nation différente, voire même d'une race différente, qu'elle est bien sûr supérieure à celle des autres. Et c'est ça, aujourd'hui, le discours qui est véhiculé, et puis qui lentement, lentement pénètre notre propre discours. Donc, en fait, on doit faire l'effort, même si ça paraît un peu lourd, de parler de purification dite ethnique.
Alors, je crois que c'est tout à fait juste. Mais on devrait dire quoi ? Purification religieuse, alors ?
Non.
Est-ce que c'est même pas ça, le critère non plus ?
C'est une purification dite ethnique. C'est un peu balourd, mais enfin, je crois que c'est la seule manière d'être juste envers cette problématique. Alors, pour revenir aux femmes en noir, généralement aux opposantes contre la guerre, je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui ont pris des positions antinationalistes, qui ont refusé leur soi-disant ethnicité, c'est-à-dire de s'appeler serbe ou de s'appeler croate, et qui n'ont pas voulu accepter ces subdivisions et qui continuent à se considérer comme citoyennes de l'ex-Yougoslavie, voire même comme citoyennes du monde, et qui n'ont pas du tout envie d'épouser ces discours mystificateurs qui ont été construits pour justifier la guerre. Elles ont d'emblée construit une solidarité par-dessus les fronts du conflit. Ça veut dire que déjà depuis le début du conflit, elles ont gardé et développé leurs contacts avec les femmes croates, avec les femmes bosniaques, avec les femmes en Macédoine ou au Kosovo, justement pour ne pas se laisser diviser par ce conflit. Donc il y a des groupes actifs dans toutes les régions. Et les trois groupes principaux qui ont d'ailleurs été récompensé par... En décembre dernier, il y a eu une rencontre Femmes en Noir en Israël. Femmes en Noir internationales avaient invité un petit peu tous les opposantes à la guerre. Et elles ont accordé un prix aux trois groupes qui ont été considérés les meilleurs. Et c'est justement les trois groupes que nous avions sélectionnés il y a 2 ans de cela, ici à Genève, pour choisir lequel nous allions soutenir. Et c'était précisément le projet Medica dont Claire va vous parler tout à l'heure, qui se trouve donc en Bosnie-Herzégovine. Un projet à Zagreb qui s'appelle Center for Women Victims of War Violence, un centre pour femmes victimes de violences de guerre, et puis un projet à Belgrade même, donc SOS Téléphone et Femmes en Noir Belgrade. Et ces trois groupes ont reçu une récompense, donc ont été reconnus comme les trois groupes pilotes un petit peu, c'est-à-dire c'est des groupes qui arrivent à dépasser leurs problématiques locales et puis qui arrivent aussi à établir des ponts avec les autres groupes et à soutenir des groupes dans des villes plus petites pour leur création, pour leur développement, pour leur communication avec l'extérieur.
Et clairement, leur préoccupation, c'est justement la violence, c'est le point commun de ces différents groupes. SOS Téléphone,
absolument,
par exemple, à Belgrade, c'est ça la préoccupation?
C'est ça, c'est un groupe qui répondait déjà téléphoniquement. C'est un petit peu comme Viol Secours chez nous, si vous voulez. Donc c'est un groupe qui a une permanence téléphonique, qui répondait à des appels et qui se sont rendus compte qu'avec le développement de la campagne nationaliste, elles ont remarqué que juste après les informations, il y avait la violence qui redoublait dans les foyers, qu'il y avait plein d'appels de violence conjugale juste après les informations, parce que les informations distillent une telle haine. Et il y a tant de mariages mixtes que, immanquablement, la violence débarque dans les foyers, même des zones qui ne sont pas considérées en guerre.
Oui, mais c'est ça qui est particulièrement choquant, c'est que finalement, la guerre ne se passe pas que sur le front. Elle a des incidences extrêmement perverses dans les familles, parmi les gens, et touche leur quotidien, comme tu viens de le dire.
Mais il faut bien comprendre que des mariages mixtes, il n'y en a pas depuis beaucoup de générations. Je crois que c'est un petit peu pareil chez nous aussi. Je ne crois pas qu'il y ait eu des mariages mixtes entre familles catholiques et protestantes depuis très longtemps en Suisse non plus. Je crois que c'est un phénomène relativement récent. Et chez eux aussi, c'était un phénomène relativement récent. Parce qu'il faut savoir que l'Église orthodoxe, elle est contre les mariages mixtes entre catholiques et orthodoxes, par exemple. Hein. Alors, à plus forte raison, bien entendu, entre catholiques et orthodoxes, avec des musulmans, bien entendu. Mais ça commençait à se développer. Il y avait des mariages mixtes, donc il y a... Maintenant, je pense qu'il y a peut-être deux générations, ou peut-être juste trois, mais plutôt deux générations de mariages mixtes. Alors, toutes ces familles sont liées maintenant. Alors, c'est extrêmement difficile de revenir à une situation complètement séparée, qui est finalement complètement artificielle, avec une nation, avec un grand N pour chacun de ces groupes. Et ça crée des tensions épouvantables.
Et très concrètement, donc, ça se passe essentiellement dans la famille, bizarrement, dans une ville comme Belgrade. Et SOS Téléphone était confronté à ce type de violence-là.
Bon, il y a la violence conjugale, il y a aussi la violence des soldats qui reviennent du front et puis qui se défoulent sur la voisine, qui a le tort d'être croate ou qui a le tort de faire partie de la minorité hongroise. Donc il y a la violence conjugale et puis il y a la violence entre une maisonnée et une autre maisonnée et qui a drastiquement augmenté depuis le début de la guerre. Elles sont débordées d'appels. Donc elles comprennent bien que le nationalisme et tout la propagande qui accompagne une entrée en guerre entraîne une vague de violence terrible pour les femmes et les enfants.
Et puis il y a eu ensuite, évidemment avec la guerre, l'arrivée en masse de réfugiés et qui a suscité un autre type de solidarité, un autre type de travail d'entraide.
Alors, le premier travail qu'elles ont fait au début, c'était d'aider les objecteurs de conscience à échapper à la mobilisation forcée. Donc ça, c'est un travail qui les a beaucoup mobilisés au début, peut-être un peu moins maintenant, d'aider les jeunes gens à s'enfuir. Je veux dire, concrètement, c'était leur seule chance d'éviter la mobilisation forcée. Et il y a certains endroits à la frontière où il y a des passeuses professionnelles, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale chez nous, qui aident les jeunes... à se tirer, quoi. Alors, ils s'en vont où ? Ils s'en vont en Italie, ils s'en vont en Espagne.
Et ceci grâce spécifiquement aux femmes ?
Ah, absolument, oui. Mm-hmm. Absolument. C'est des passeuses. Connues pour cela. Qui a commencé par son propre fils.
Oui,
et puis après, des amis du fils. Et puis après, des amis d'amis 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 d'amis. Mm-hmm. Et puis maintenant, plus récemment, alors en effet, c'est ces monstrueux déplacements de population qui amène des flots de réfugiés, par exemple à Zenica, en provenance des enclaves qui sont tombées, Zepa et Srebrenica, maintenant en provenance de Banja Luka, côté bosniaque, mais côté serbe aussi, il y a des centaines de milliers de réfugiés qui affluent en provenance de l'ex-Krajina, donc qui a été repris par les Croates et les musulmans, et de toute la région jusqu'à Banja Luka, il y a des centaines de milliers de réfugiés qui affluent côté serbe, l'arrivée de ces réfugiés pose énormément de problèmes. D'une part, l'armée veut les canaliser, veut les envoyer où ça les arrange, eux, de les envoyer, à savoir dans certaines terres qu'ils ont conquises auparavant et qui seraient sous-peuplées. Là, ils veulent les forcer à éventuellement aller là-bas. Ils veulent les forcer à aller au Kosovo. Et on sait que ça va créer une poudrière, immanquablement. Ou bien, ils veulent les forcer à aller dans d'autres endroits où ils ne veulent pas toujours aller. Et ça crée beaucoup de tensions.